VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Le président ivoirien Alassane Ouattara, reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande, a déclaré que son pays ne quitterait pas la Cour pénale internationale, la CPI, contrairement à l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie. M. Ouattara ne souhaite pas non plus que d'autres pays africains quittent la CPI. On l'écoute.
Ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI. Et je pense que la plupart des pays sont dans cette volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité. C'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du continent. Donc la Cour pénale internationale fait son travail. Souvent d'ailleurs à la demande des pays africains, des autorités africaines. Ah oui, vous savez, les élections... Vous en savez quelque chose, les résultats sont imprévisibles. Nous sommes trop petits pour avoir des observations sur les résultats des élections américaines. Et bien évidemment, les Américains ont fait leur choix et nous travaillerons bien évidemment avec le gouvernement.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a également commenté les récentes élections aux États-Unis. Au Burkina Faso, après les médias publics et les enseignants, c'est maintenant au tour des agents de la santé d'entamer une grève aujourd'hui pour 72 heures. Forte participation à cet arrêt de travail, dont Pissa Mouedarogo, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, nous explique les causes.
Nous avons choisi, à notre corps défendant, un mot d'ordre de grève totale dans l'optique que le gouvernement puisse effectivement se pencher assez rapidement sur nos revendications. Nous savons que même lorsque nous travaillons, il y a beaucoup de désagréments. On sait bien que notre activité est socialement utile. Mais apparemment, nous, on pense que le gouvernement n'y croit pas. C'est pourquoi il n'a pas écouté à la première grève. Et les travailleurs, avec le syndicat, nous avons donc choisi cette forme-là pour effectivement nous faire entendre. D'abord, notre plateforme n'est pas satisfaite. Et deuxièmement, nous, on pense qu'elle n'est pas satisfaite parce que le gouvernement nous méprise. Il n'y a pas de sérieux lorsqu'il discute avec nous. Nous avons déposé la plateforme revendicative le 18 avril 2016. La première rencontre a eu lieu le 26 avril. Depuis, plus rien. Jusqu'à ce qu'on dépose la plateforme le 12 octobre 2016 pour avoir une rencontre le 18 octobre. Vous voyez, le gouvernement s'en fout de nous. C'est pourquoi les travailleurs ont estimé qu'il était de leur devoir de ne pas permettre qu'on abandonne le système de santé et les travailleurs de la santé de cette façon.
Pissam Ouedraogo, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale au Burkina Faso. Au Sénégal, des amis de longue date de Lamine Diack, ex-patron de l'athlétisme mondial, inculpé de corruption, ont versé la caution de 500 000 euros que lui réclame la justice française. Le point avec Chérubin Dorsil.
Lamine Diack est poursuivi depuis novembre 2015 pour corruption passive et blanchiment aggravé. Il est sous contrôle judiciaire en France. Son passeport étant confisqué, il ne peut quitter ce pays. D'après un communiqué diffusé par sa famille, des amis de longue date ont versé la caution réclamée par le parquet français, soit 500 000 euros. Le texte n'identifie aucun de ses amis de longue date. Cette caution devrait lui permettre d'éviter tout risque de détention provisoire. Un de ses fils, Papa Massata Diack, qui fut consultant à la Fédération mondiale d'athlétisme, est poursuivi dans la même affaire. Il est soupçonné d'être l'un des acteurs du système de corruption mis en place pour couvrir les cas de dopage. Il a été placé par Interpol sur la liste des personnes les plus recherchées à la suite d'un mandat d'arrêt émis par la France. Papa Massata Diack réside au Sénégal. En janvier, Dakar a exclu son extradition vers la France.
Afrique centrale maintenant, RDC, les États-Unis ont appelé l'opposition congolaise à s'abstenir de propos incendiaires en République démocratique du Congo, minée par une crise politique liée au report de l'élection présidentielle. On écoute Brian Newbert, porte-parole francophone du département d'État américain.
Cette déclaration, ça vient de l'ambassade, également du porte-parole du département d'État, John Kirby, disant que les États-Unis sont prêts à continuer notre soutien au peuple congolais, mais actuellement, la situation est urgente. Nous soulignons l'importance de cette opportunité qui est facilitée par les évêques catholiques. Ces discussions devraient être sérieuses entre le gouvernement et l'opposition. Pour les deux côtés, donc, l'opposition doit être sérieuse et discuter les solutions pratiques. Et nous encourageons ces membres de l'opposition d'éviter des déclarations qui n'aident pas à ce processus. Il y a une piste, mais maintenant c'est urgent. Les États-Unis encouragent le gouvernement à protéger les droits fondamentaux des citoyens congolais et respecter la Constitution.
Brian Newbert du département d'État américain, joint à Johannesburg par Nicolas Pino.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cameroun, 6 militaires camerounais ont été tués lundi soir lors d'une attaque menée par les islamistes nigérians de Boko Haram contre une position de l'armée sur l'île de Darak, sur le lac Tchad. Les détails avec John Lyndon.
Des combattants de Boko Haram ont attaqué vers 21h GMT un poste de la force multinationale mixte sur l'île de Darak, dans l'extrême nord du pays, a indiqué sous couvert d'anonymat un responsable militaire en ajoutant que 6 militaires, dont un officier, un sous-officier et 4 soldats avaient été tués. En plus des militaires, un membre du comité de vigilance de Darak a été tué. Les comités de vigilance créés par les autorités pour lutter contre les attaques de Boko Haram sont constitués de civils chargés d'alerter l'armée de toute infiltration des djihadistes. Depuis 2014, l'armée camerounaise est en guerre contre le groupe extrémiste qui a mené une série d'attentats suicides depuis juillet 2015. L'insurrection islamiste et sa répression ont fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009.
Au Tchad, l'appel à une journée ville morte aujourd'hui lancé par le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, a eu peu d'impact à N'Djamena, la capitale, où les fonctionnaires sont en grève pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Confronté à un effondrement de ses recettes du fait de la baisse des cours du pétrole, le gouvernement tchadien a quand même annoncé hier à la veille du mouvement le déblocage d'un mois de salaire pour les agents publics qui se pressaient aujourd'hui devant les banques restées ouvertes, comme les entreprises privées. En Égypte, la plus haute cour de justice a de nouveau annulé une peine de prison à vie pour l'ancien président Mohamed Morsi. Des décisions qui ne signalent pas de revirement dans la ligne répressive du président Abdel Fattah al-Sissi. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
La cour de cassation égyptienne a annulé aujourd'hui les peines de 22 accusés, dont la peine de prison à vie de l'ex-président islamiste dans un procès pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. La cour a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Il y a une semaine déjà, la plus haute instance judiciaire avait annulé une condamnation à mort de Mohamed Morsi dans une autre affaire. Selon des experts, ces décisions judiciaires dévoilent le manque de preuves et les vices juridiques qui entachent les procès politisés intenté à l'ancien président, mais qui ne signale pas de changement dans la politique de répression contre les frères musulmans.
Politique aux États-Unis maintenant, le président élu Donald Trump a déclaré que ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche seront fondés sur un principe très simple, l'Amérique d'abord. Le point avec Jean-Roger Bion.
Donald Trump a publié sur YouTube une vidéo disant qu'il a instruit son équipe de transition de lui soumettre une liste de décrets qu'il peut prendre dès le premier jour de son administration. Des mesures qui vont, selon lui, restaurer nos lois et rapatrier nos emplois, que ce soit pour produire de l'acier, construire des voitures et guérir des maladies. M. Trump a poursuivi, je veux la prochaine génération de production et d'innovation ici même, créant de la richesse et des emplois pour les travailleurs américains. Dès le premier jour, a encore promis M. Trump, il notifiera son intention de se retirer du TPP, l'accord commercial de partenariat transpacifique, et de renégocier ce qu'il a appelé des accords bilatéraux justes. Par ailleurs, pour toute nouvelle réglementation fédérale, il faudra en éliminer une ancienne. M. Trump va aussi demander au Pentagone de mettre au point un plan global pour protéger les infrastructures américaines contre les cyberattaques. Donald Trump n'a rien dit sur le mur qu'il avait promis de construire à la frontière avec le Mexique, mais il va demander au département du travail d'enquêter sur tous les abus de programmes de visa qui sont préjudiciables aux travailleurs américains.
Et pour terminer, aux Comores, l'épidémie de paludisme est en voie de totale éradication sur les 3 îles de l'archipel. C'est ce qu'affirme le docteur Mbaye Toib de l'Association comorienne pour le bien-être de la famille. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.